Salut Patrick.
Ça m'a intéressé ton papier parce que j'ai une tablette, j'ai un ordi, puis des fois je me dis pourquoi j'ai les deux.
C'est une bonne question. Il y a une réponse à simple à ça, c'est que ton ordi ne fait pas la job d'une tablette. Il y a des choses qu'on fait avec un iPad, parce qu'évidemment on parle d'Apple, qui sont pas encore tout à fait réalisables sur un Mac. C'est un peu le monde à l'envers, en fait, parce qu'on devrait dire un ordinateur personnel devrait tout faire et la tablette faire une partie seulement de ce que fait un ordinateur. Mais et le gros élément, évidemment, c'est l'écran tactile sur les iPads. Et puis depuis, ça fait quand même quelques années déjà là, que du côté de Microsoft, des PC, des appareils de Microsoft eux-mêmes, qui s'appellent la gamme Surface, là, il y a déjà des écrans tactiles. Donc sur Windows, on peut, au lieu d'aller toujours avec la souris ou le pavé tactile, aller directement à l'écran, puis faire défiler des choses, puis faire des actions sur l'écran qu'on ne peut pas faire sur un Mac. Et là, la semaine dernière, Apple nous ont présenté leur nouveau iPad haut de gamme qui sont des tablettes, donc ont un écran tactile et sont vendus de plus en plus. En tout cas, on recommande d'acheter avec la tablette une espèce d'étui clavier là, qui ressemble essentiellement à tout ce qui manque sur une tablette pour ressembler à un ordinateur personnel. Là, c'est un clavier avec un pavé tactile, le souris, tout le kit, dans lequel on glisse la tablette. Et là, pouf, on a l'équivalent d'un ordinateur personnel, donc d'Apple, mais avec un écran tactile.
Alain, je fais le même métier que toi là à l'écrit. Puis je me documente pour cette émission, etc. Et récemment, j'ai changé mon MacBook. J'en ai acheté un neuf. Mais là, je te lisais, puis je me disais, est-ce que j'aurais... Si j'avais eu le choix, je me demande si j'aurais pris le iPad Air ou Pro. Puis je serais arrivé au même résultat, là, si je comprends.
On s'approche de plus en plus. Évidemment, l'interface n'est pas la même. Là. C'est-à-dire que sur iPad, c'est un appareil qui est issu de la logique mobile. Donc, c'est des applications, c'est des icônes côte à côte sur l'écran. On pèse sur l'icône, l'application s'ouvre. Il y a quand même la possibilité d'ouvrir deux, trois applications côte à côte en même temps à l'écran de la tablette. On peut brancher un moniteur avec ça. On peut faire pas mal tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur. Juste la façon de le faire est un peu différente. Mais oui, on est au point où les deux s'équivalent beaucoup. Il y a quelque chose de le fun avec l'iPad Pro. C'est que c'est un produit de luxe. C'est un produit qui est très aspirationnel, qui est très beau. Et ils ont une nouvelle technologie d'affichage, une nouvelle façon un nouvel écran, en fait, qui est de la technologie OLED. Et ils l'ont fait d'une façon qui est extrêmement lumineuse. Il y a des contrastes, entre, disons, des points, des pixels noirs, des pixels de couleur, qui est hallucinante. C'est vraiment un beau produit. Et ils ont réussi à tout rentrer ça dans un appareil qui fait 5 mm d'épaisseur. Ce qui est un peu difficile à raffigurer, mais c'est vraiment extrêmement mince pour ce qui est essentiellement un ordinateur personnel complet. Évidemment, il n'y a pas de clavier à cette épaisseur-là. Il faut rajouter le clavier, là, mais c'est quand même toute une machine, effectivement.
Mais quand tu parles du iPad qui a un clavier là, qui est intégré, toi, tu écris dans la vie, tu écris beaucoup. Est-ce que tu te verrais écrire sur un clavier semblable?
Je le ferais pour dépanner. Je pense que je fais partie d'une vieille école de gens qui... Ça me prend une espèce d'environnement avec toutes les fenêtres plus classiques. Mais je vois de plus en plus de collègues qui le font, qui sortent de l'appareil plus mobile, je dirais, et qui vont travailler, qui vont faire la prise de notes, tout ça. Évidemment, il y a une logique d'affaires derrière ça pour Apple, parce que l'idée, c'est de trouver d'autres usages à la tablette ou à iPad, en tout cas, que juste aller sur Internet puis regarder des vidéos. Donc, on se dit, si on peut donner des moyens d'en faire un outil de productivité, ben là, on va trouver d'autres acheteurs. Et là, on trouve une espèce de catégorie de gens qui sont intéressés par ce modèle-là, effectivement. Puis, je te dirais, avec ce que j'ai vu depuis une semaine avec l'iPad Pro ou même l'iPad Air, qui coûte essentiellement beaucoup moins cher, mais qui fait la même chose, il y a la frontière entre le Mac et l'iPad est... C'est une question de vue de l'esprit pratiquement à ce stade-ci.
Alain, j'ai déjà reçu des messages de jeunes personnes, j'ai entendu des jeunes dire ça. On fait une équivalence entre le iPad puis des vieilles personnes. Je sais qu'il y a ce préjugé-là, mais si, je te lisais ce matin, j'ai l'impression que le marché du iPad, c'est pas juste pour les vieux, là.
Non, ben évidemment, ça dépend du modèle d'iPad, probablement, et du budget des gens. Donc, nécessairement, quand on est plus jeune, on a peut-être moins d'argent disponible, mais même à la maison, mes enfants, il y en a un qui a dû avoir un iPad pour l'école secondaire. Il y a un autre qui a dû utiliser un Chromebook, qui est une espèce d'ordinateur pas cher de Google. Ça les a formés à utiliser ce genre d'appareil-là. Et par la suite, dans les années suivantes, ce que je vois, c'est qu'ils ont une affinité avec la gamme de produits en question. Et pour mon enfant qui a un iPad, ce qui est intéressant, c'est que premièrement, l'iPad, il dure plus longtemps que le Chromebook. Donc déjà, en partant, on paye un peu plus cher, mais on en a pour son argent. Mais ça le fait évoluer aussi vers cette... cet environnement-là qui n'est pas juste le clavier. Hein, il y a aussi un stylet, puis il y a bien des affaires, puis c'est très créatif comme appareil. Et quand on tombe dans la productivité là-dessus, c'est quand même plus le fun parce que c'est un format d'utilisation moins fixe qu'un ordinateur personnel. Donc, ça permet plus de créativité. Ça, j'ai trouvé ça assez positif par rapport à un ordinateur plus classique. Là.
OK, restons dans le domaine du numérique. Alain McKenna, tu es, je le disais tantôt, là, en Californie. Tu es là-bas pour une conférence sur l'intelligence artificielle. Où et de quoi s'agit-il?
Ben, je suis avec Google. C'est une conférence qui se fait à tous les ans, qui s'appelle Google I.O. Essentiellement, dans le passé, ils présentaient la mise à jour, par exemple, du système Android pour les téléphones qui sont développés par Google, par d'autres fabricants aussi. Ils présentaient des nouveautés logicielles dans tous les sens. Et cette année, j'ai le goût d'appeler les trois mois dans lesquels on se trouve le printemps de l'intelligence artificielle parce qu'on parle que de ça dans les technos. Même la semaine passée, Apple, en présentant ses iPads, disait que c'est des appareils qui sont prêts pour l'intelligence artificielle. On peut coder de l'IA, on peut avoir des applications d'IA sur les tablettes, blablabla. Et là, aujourd'hui, il y a eu une conférence, il y a eu, en fait, l'ouverture de la conférence qui était aussi pour les médias, qui durait 2 heures. Et pendant 2 heures, ils ont prononcé l'expression intelligence artificielle au-dessus de 125 fois. Donc, c'est plus qu'une fois par minute. C'est donc dire à quel point c'est rendu central dans le business de Google. Mais aussi, ça va beaucoup changer la façon dont on navigue sur Internet, dont on utilise son téléphone, si on utilise les produits Google, évidemment. Et même la façon dont on se promène en auto, parce qu'ils nous ont présenté toute une flopée de nouveautés pour Google Maps, qui va intégrer, qui va résumer du contenu, qui va aller chercher de l'information, puis qui va l'agréger à même l'application de navigation qui est surtout utilisée en voiture la plupart du temps. Et c'est assez intéressant ce qui s'en vient de ce côté-là. Chez Google, l'intelligence artificielle s'appelle Gemini. C'est un paquet d'outils, en fait. Là, c'est rendu des termes qui englobent plein d'autres affaires. Et essentiellement, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut rendre... C'est comme un gros outil de synthèse dans le sens où si on fait une recherche, parce qu'évidemment 80% du temps on fait des recherches en ligne sur Google, et Google renvoie une liste de sites web, hein, d'une adresse, un petit résumé. Là, ce qu'on veut rendre ça plus dynamique, donc on va créer des contenus agrégés. Par exemple, si on cherche un vélo, ben ils vont nous faire des comparatifs avec une synthèse et différentes critiques trouvées à gauche, à droite sur différents produits pour faciliter la prise de décision. Évidemment, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il faut voir encore comment ça va se comporter. Mais quand on regarde les démonstrations de ça, on se rend compte qu'il y a différentes façons de faire de la recherche en ligne, effectivement. Et sur mobile, ça va changer beaucoup aussi parce que ils ont présenté un autre truc qui s'appelle le projet Astra, qui permet de faire de la recherche avec la caméra de son téléphone. Ça veut dire qu'on filme quelque chose. Et là, on parle à son téléphone, on lui demande, peux-tu me dire, par exemple, tu regardes une pomme avec ton téléphone, peux-tu me dire quelle sorte de pomme ça se trouve à être? Et automatiquement, l'outil va faire la recherche et nous revient avec la réponse, ben c'est une pomme Macintosh ou c'est une Granny Smith ou quoi que ce soit. Et on voit beaucoup de potentiel de ce côté-là pour Google pour relancer son moteur de recherche. Faut dire que le moteur de recherche de Google est de plus en plus critiqué par bien des gens pour plein de raisons, mais entre autres parce que de plus en plus, il y a de la misère à trouver l'information exacte que les gens cherchent. Et là, on se dit que, ben évidemment, l'intelligence artificielle... va faire partie de la solution de ce côté-là.
Tu parles dans un autre papier publié dans Le Devoir du principe, toujours dans l'intelligence artificielle, de colonialisme numérique. C'est quoi ça?
Ah, ben c'est un peu ça. C'est que l'intelligence artificielle, elle marche dans les deux sens. On s'en sert parce qu'elle nous permet de résumer ou d'accéder à une foule d'informations. Mais cette foule d'informations-là, il faut qu'elle la trouve quelque part. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que il n'y a pas Google, mais il y a Apple, il y a Microsoft, ils sont tous là, ils veulent tous à terme que cette intelligence artificielle-là tienne dans notre poche, sur notre téléphone, sur notre mobile, puis tout le monde a un téléphone dans ses poches, partout dans le monde. On est quoi, 6 milliards, 800 millions de personnes à avoir un téléphone intelligent dans nos poches, qui envoie chaque jour, chaque instant de l'information à ces entreprises-là, donc qui savent ce qu'on fait à la seconde près. Ces entreprises-là utilisent cette information-là bien pour nous fournir des solutions adaptées ou sur mesure ou ainsi de suite, mais surtout ont une information incroyable sur... à un autre niveau, là, sur comment on se comporte à l'école, comment on se comporte au travail. Et ça nous rend un peu dépendants de ce qu'ils nous offrent. Et ça leur donne un pouvoir. C'est là où ça, c'est une recherche d'un chercheur d'Oxford là, qui parlait de colonialisme numérique, où il disait que ça nous rend vraiment dépendants de ce qu'il appelle les big tech, là, c'est l'expression consacrée, les GAFA, si on veut. Et que comme eux savent avant tout le monde, parce qu'ils ont l'information avant tout le monde, quels sont nos comportements, quelles sont nos prises de décision, ben, ils disent que ça les positionne avantageusement ensuite pour influencer le discours à haut niveau, que ce soit au niveau médiatique, que ce soit au niveau politique, ou tu sais, dans les prises de décision sur des enjeux d'actualité. Et ça, ils trouvent ça très inquiétant. Il y a un niveau là-dessus très local, hein, parce que ces entreprises-là, évidemment, ce sont des entreprises essentiellement californiennes ou en tout cas américaines. Et leur système d'intelligence artificielle, on le sait, comporte des biais, c'est-à-dire que la façon qu'ils ont été programmés, il se base sur des traits culturels ou des choses, sans que ce soit fait volontairement par les chercheurs qui ont créé ces systèmes-là, mais qui sont quand même basés sur essentiellement la culture américaine. Donc, il y a des prises de décision où il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui sont conçus basés sur les valeurs américaines. Et ça peut éventuellement donner des résultats bizarres. Ça peut être très très banal, ça peut être très grave. Il y a depuis quelques semaines, on parle beaucoup au Canada d'une intelligence artificielle souveraine, l'importance d'avoir un système d'IA canadien. Il y a des gens au Québec qui disent qu'on devrait aussi avoir une intelligence artificielle souveraine québécoise, donc pour avoir cette espèce de connaissance, ce point de vue sur l'histoire, sur n'importe quoi, basé localement sur les valeurs québécoises, les valeurs canadiennes, ou peu importe, pour justement ne pas être dépendant de technologies américaines. Parce que ça peut influencer éventuellement ce qu'on fait au niveau politique, au niveau culturel, au niveau social. Un peu comme on le voit avec Netflix, la musique en ligne, tout ça, puis la notion de découvrabilité. Et là, on le voit à un niveau plus grave, parce qu'évidemment, l'intelligence artificielle, il va en avoir partout avant longtemps, là, si on voit ce qui se fait avec Google et avec les autres géants technologiques. Là.
Vraiment intéressant. C'est une nouvelle frontière numérique, littéralement. Alain, merci de nous avoir parlé en direct de Californie. On aura l'occasion de se parler très bientôt. Prends soin de toi.
Merci, à la prochaine.
C'était Alain McKenna, qui est journaliste au journal Le Devoir, commente la technologie, aussi les voitures, et on peut l'entendre aussi, évidemment, sur les ondes de cette station. Il a deux balados qui touchent la voiture, ça tient la route, et une tasse de tech sur la techno. Merci d'avoir été là. Je vous laisse avec Valérie Leboeuf et Maxime Lachance. Le sujet ce soir, est-ce que vous êtes rendu insensible devant les nombreux itinérants qui sont dans nos cités? On ne les voit plus uniquement qu'au centre-ville de Montréal. Ils sont partout. C'est le reflet de plusieurs crises sociales. On en discute dans un instant. Bonne soirée.
Suivez Michel Turcotte à CFX-FM 93.
Le commerce n'est pas facile à Rimouski. On a des locaux, des commerces là, qui déménagent ou qui ferment. Ça, c'est un peu normal. Ça a toujours été un peu comme ça là, au centre-ville de Rimouski depuis quelques années. Là, on a une partie là, du parc commercial qui est inexploitée, qui est vide. Et c'est pas facile à louer là, concernant le commercial de ce temps-ci. Même s'il y a des rumeurs de nouveaux commerces là, qui veulent s'installer au centre-ville, ben effectivement, là, on peut les compter sur les doigts d'une main, tandis que les fermetures, elles, donc, continuent de se succéder, là. Nous, ici, juste en bas de chez nous, on a perdu Verpomme dernièrement, là, qui est déménagé sur le boulevard, là, Arthur Buy, puisque le commerce a été acquis, là. Ben voilà, c'est un exemple, comme ça. En face, on a juste, en face de nous, ben, l'ancien magasin de musique aussi, qui est déménagé, là.
La chronique municipale, tous les lundis, 7h45. Une présentation de TMS Solutions.
Selon l'équipe de Sensation Plus, pour une soirée parfaite, ça prend de la lingerie coquine, de l'huile à massage, des jouets et beaucoup de Sensation Plus. Livraison rapide et discrète. SensationPlus.com. Partagez le plaisir.
Electro, votre électricien de confiance à Rimouski, c'est l'endroit par excellence pour magasiner vos produits de chauffage, d'éclairage ou bornes de recharge. Avec les dernières pannes électriques, vous envisagez l'installation d'une génératrice à votre résidence ou chalet? Nous sommes dépositaires des génératrices Kohler au propane et sans odeur. Venez nous rencontrer sur la rue des Fabricants. Faites confiance à une équipe professionnelle pour des installations sécuritaires et fiables. Pour vos petits aux gros travaux, on pense toujours à Electro. 418-724-4433 ou le chèqueélectrique.com.
Son X Plus Rimouski vous offre son kiosque de téléphone cellulaire Vidéotron avec des produits tels qu'iPhone, Motorola, TCL, Google et Samsung avec sa gamme S24. De plus, profitez des forfaits incluant une tonne de données par mois et une banque annuelle de données supplémentaires. Le tout à partir de seulement 35$ par mois plus taxes, appels et textos illimités au Canada. Certaines conditions s'appliquent. Détail en magasin au 150 Avenue Belle-Île ou au sonexplusrimouski.com.
Votre vision est dérangeante, vous ne voyez plus aussi bien qu'avant, vous êtes déçu de vos lentilles intraoculaires, vous n'aimez pas porter de lunettes. Au Centre ophtalmologique de l'Estuaire, plusieurs solutions visuelles sont disponibles à divers problèmes oculaires. Prenez votre premier rendez-vous dès maintenant pour évaluer la santé de vos yeux. Notre équipe vous présentera les options qui s'appliquent à vous. Notre parcours cataracte a reçu la note de 98,3% à la visite d'Agrément Canada. Appelez au Centre ophtalmologique de l'Estuaire au 418-723-2016.
Allô, Nissan? Hey, tu fais ton ménage de printemps, toi?
J'ai pas besoin. Le nouveau Nissan Rogue 2024 brille déjà. Il est tellement élégant.
C'est vrai. Et en même temps, il a pas peur de se salir.
Ah ben non. Avec sa traction intégrale et son efficacité énergétique, il carbure à l'aventure.
Amenez-en de la boîte.
Ben oui, on passera chez moi après. Nos nouveaux modèles sont en stock. Louez le Nissan Rogue S 2024 avec moteur VC turbo de 1,5 litre à partir de $399 par mois pendant 24 mois. Jusqu'au 31 mai, à compte de 1649 $, valeur de 36 497 $, sur approbation de crédit, les conditions s'appliquent. Détails chez Nissan.
Rimouski, 93.3.